c'est l'ouverture des marchés américains. Vous entendez la cloche qui retentit à Wall Street ? Mais c'est normal, c'est USA Today qui démarre également avec nos experts. John Plassard, bonjour John, depuis les bureaux de Mirabeau. Ravi de vous retrouver. Étienne aussi nous accompagne, Étienne Braque depuis la Tour Next. Bonjour Étienne, comment Wall Street se réveille-t-il ?
Bonjour à tous. Eh bien écoutez, après une séance mitigée hier, vous avez trois indices américains qui démarrent cette deuxième séance du mois de mai dans le vert. Plus 0,9% pour l'indice Nasdaq à 15 738 points. Vous avez le Dow Jones qui grappille 0,6% à 38 130 points. Quand l'indice S&P 500 retrouve la barre des 5000 points, séance mitigée, oui, hier avec notamment trois indices qui ont gagné plus d'1% et puis ensuite qui se sont dégonflés lors de la conférence de presse de Jerome Powell. On en reparlera dans un instant avec John Plassard. À noter que l'euro-dollar peine à décrocher une nouvelle fois les 1,07. 1,0695 et puis sur le front des taux, ça se stabilise. Là aussi, après une séance mouvementée hier, le 10 ans américain est à 4,64. Le 2 ans de son côté est à 4,95. Les cours du pétrole à 83$. Le WTI à 78$. Du côté des valeurs qui se distinguent aujourd'hui, à l'ouverture Nvidia qui prend un peu plus de 2%. Et puis AMD hier qui a perdu plus de 8% après une publication en dessous des attentes mardi soir, tente de se relever très légèrement avec un gain de 1,5%. Ça montre bien que dans le secteur des semi-conducteurs, tout le monde n'est pas à la même enseigne, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. On verra qu'à Paris, il y a également pas mal de valeurs des semi-conducteurs qui baissent aujourd'hui. Un dernier mot également, bien sûr, sur les valeurs liées à l'anti-obésité, avec une valeur star aujourd'hui en Europe, c'est Novo Nordisk. Et vous avez Eli Lilly, son rival, qui de son côté perd légèrement du terrain avec une baisse de 0,2%. Le tout donc dans une tendance positive. Trois indices américains qui sont dans le vert dans les premières minutes de cotation.
Et John, on est ravi de vous retrouver, John Plassard, depuis les bureaux de Mirabeau. C'est vrai que c'est une ouverture allée à la hausse, dans le vert, donc sur les marchés américains, même si sur le front des statistiques, au lendemain de la Fed, on va en parler dans un instant, mais on a une nouvelle confirmation d'une dynamique inflationniste partie pour à nouveau s'installer, peut-être même réaccélérer, John.
Exactement. Il faut rappeler une chose, Guillaume, c'est qu'il y a deux jours, eh bien, on a eu la plus forte rémunération des travailleurs civils aux États-Unis depuis un an. Là, c'était les coûts unitaires de la main-d'œuvre dans le secteur des entreprises non agricoles qui est sorti aujourd'hui. Et tenez-vous bien, elle a augmenté. Ils ont augmenté ses coûts de 4,7% en rythme annuel au premier trimestre 2024 contre une hausse de 0,4%. 4,7 contre 0,4% au quatrième trimestre de l'année passée. On avait un consensus qui était en dessous. Donc on voit ici que globalement, on a une inflation qui augmente aux États-Unis et ça augmente aussi sur les salaires. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que demain, on a les chiffres de l'emploi aux États-Unis, bien évidemment, dont on va parler demain. Et bien, dans les chiffres dans l'emploi américain, il y a aussi une composante salaire. Donc c'est ce qu'on va regarder de très très près demain et qui pourrait potentiellement poser problème à la réserve fédérale américaine.
Alors justement, la Fed, on continue de digérer le communiqué, la conférence de presse de Jerome Powell, les taux américains toujours sur les mêmes niveaux cet après-midi, Étienne, aux États-Unis.
Oui, en effet, ils se stabilisent, les taux américains, que ce soit sur les durations longues et courtes. John Plassard, c'était intéressant hier, cette conférence de presse de Jerome Powell, notamment sur le fait que pour l'instant, il exclut des hausses de taux.
Oui, alors, il exclut, et il a plutôt dit que ce n'était pas dans son agenda. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'a pas totalement exclu. La porte est légèrement ouverte, mais pas totalement, bien évidemment. Mais la question hier que tout le monde se posait, c'était de savoir quand aurait lieu la première baisse de taux. Eh bien, tenez-vous bien, Étienne, on n'en a aucune idée. Et c'est très intéressant de noter ça, parce qu'il a dit que les taux resteraient élevés pour plus longtemps. Vous savez, le fameux « higher for longer », comme on dit aux États-Unis. Il a aussi dit que la Fed était data dependent, c'est-à-dire qu'on savait qu'elle regardait les statistiques économiques. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé l'interprétation aux investisseurs, c'est-à-dire que les investisseurs, attendront les prochaines statistiques. Il faut rappeler que demain, je l'ai dit avant, on a l'emploi américain et qu'il faudra attendre deux semaines pour avoir l'inflation américaine. Donc, pour l'instant, on est un peu dans le flou. Ce qu'on a vu juste après la conférence de presse de Jerome Powell, c'est qu'aujourd'hui, on a le consensus qui parie juste sur une baisse de taux en novembre 2024. Mais je vous rappelle qu'en novembre, il y a un rendez-vous dont on parle tous les jours, c'est la présidentielle, les élections présidentielles aux États-Unis. On sait qu'historiquement, la Fed ne fait pas grand mouvement normalement lorsque c'est le même mois des élections présidentielles américaines. Il y a juste une chose à noter ici, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être le plus intéressant de ce qui a été dit hier, c'est que la Réserve fédérale américaine a déclaré son intention de réduire la vitesse de son resserrement quantitatif. Ce qui voudrait dire, en lisant à travers les lignes, qu'elle trouve que le rendement du 10 ans américain, le rendement des treasuries est trop élevé. Et on a vu qu'après cette déclaration, puisque ce sera 25 milliards de réduction au lieu de 30 milliards attendus, eh bien après cette déclaration, on a vu le rendement du 10 ans américain baisser nettement. Donc c'est peut-être ça l'information d'hier et l'information de la soirée.
Oui, un peu tiède hier, Jérôme Powell, et du chaud froid, voilà, qui aboutit à ce tiède. Comment interpréter effectivement la conférence de presse dans un instant? Alexandre Aizé nous dira tout ce qu'il pense de Jérôme Powell. Le franc-parler à suivre d'Alexandre Aizé pour Richelieu Gestion. Auparavant, vous nous le disiez, vous nous préparez chaque jour à cette échéance. Ce qui approche, c'est l'élection présidentielle américaine. On est à 187 jours désormais, John. Et Donald Trump se fâche. Il veut débattre maintenant avec Joe Biden.
Oui, tout à fait. On sait que Donald Trump est dans de beaux draps, c'est le cas de le dire, puisqu'il a son procès pénal actuellement, qu'il baisse légèrement dans les sondages face à Joe Biden, et qu'il a demandé, tenez-vous bien, à la commission des débats présidentiels d'avancer le calendrier des débats, et ça a été un refus. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça voudrait dire que face à sa perte de popularité, eh bien Donald Trump voudrait débattre face à Joe Biden. Je vous rappelle ici clairement que les dates des débats sont déjà mises dans le calendrier. Il faut le rappeler, trois débats présidentiels et trois débats des futurs potentiels vice-présidents. Pour les débats présidentiels, il faut le noter dans votre agenda, le 16 septembre, le 1er octobre et le 9 octobre. Donc ça sera ces dates et aucune autre si débat il devait y avoir. Parce que je vous rappelle quand même que ce n'est pas une obligation.
Wall Street a ouvert il y a maintenant 8 minutes. Les trois indices sont dans le vert, plus 0,5 le S&P, plus 0,6 pour le Nasdaq. Allez, une petite chanson pour se préparer avant ce soir. C'est ce soir qu'on va tous regarder Apple. Oui, ce soir, effectivement, la dernière grande GAFAM va publier. Ce sera après la clôture de Wall Street, Étienne.
Qui est optimiste, puisque John Plassard, aujourd'hui, Apple est la plus forte hausse de l'indice Dow Jones. La valeur gagne 1,4% au-delà des $170, ce qui sera bien sûr scruté une nouvelle fois, c'est l'activité en Chine.
Alors, ce qu'il faut noter, Étienne, c'est que l'action Apple, à part aujourd'hui, a marqué un creux de un an le 19 avril. Donc, c'est-à-dire, il y a moins de 10 jours de ça. On attend un chiffre d'affaires en baisse de 4,5%. Donc, ça, c'est tout à fait officiel. Un bénéfice par action qui est prévu à $1,51 contre $1,52 il y a un an. Mais, vous l'avez dit, tous les regards sont tournés vers la Chine, face notamment à la concurrence locale de Huawei. Mais aussi, les investisseurs regardent la partie la plus profitable d'Apple, c'est la partie des services. Vous savez, qui inclut l'App Store et Apple TV. Et puis, ce qu'il faut rappeler, je crois que c'est assez intéressant de le noter, c'est que lors des 7 derniers trimestres, Apple a dépassé les estimations de bénéfices par action 6 fois, donc 6 sur 7, et celle du chiffre d'affaires 4 fois, donc 4 sur 7. Et notez une chose assez intéressante, c'est que dans les 10 dernières publications, c'est-à-dire dans les 10 derniers trimestres, eh bien, dans 9 des cas, c'est-à-dire dans 90% des cas, l'action Apple était en hausse le lendemain. Donc, vous avez, si on se reporte au passé, 90% de chances d'avoir l'action Apple plus élevée demain.
En attendant, c'est Qualcomm qui a publié là. En attendant Apple ce soir, 22h, effectivement, la publication. Qualcomm qui progresse là, 9%. Hier, on avait eu l'énorme douche froide AMD, effectivement, qui avait beaucoup souffert. Là, c'est quand même un peu mieux pour Qualcomm, John.
Oui, tout à fait, avec des prévisions qui sont revues en haut, supérieures aux attentes, notamment un chiffre d'affaires qui est prévu à 9,2 milliards contre un consensus de 9,05. Et ce qui est très, très intéressant de noter, c'est que le relèvement du chiffre d'affaires et du bénéfice sont tirés notamment par une reprise plus rapide que prévu du marché des smartphones. Et donc, c'est très intéressant de noter parce que c'est peut-être aussi un avant-goût de ce qui nous attend sur le marché des smartphones pour Apple dont on parlait juste avant.
Allez, dans un instant, on va justement parler de ces perspectives de marché au sens large. On se demandera si les méga trends des derniers mois sont déjà un peu essoufflés quand même. L'IA, on sent que c'est un peu moins magique en bourse, l'IA, là, depuis quelques semaines. Et puis aussi l'anti-obésité, effectivement, Novo Nordisk, super publication, mais le titre recule, là. Moins 2%, on va en parler. D'abord, puisqu'on parle de Novo Nordisk et de la santé, une autre publication, c'est aux États-Unis, ETN, le titre Moderna.
Moderna, qui est l'une des plus fortes hausses du S&P 500, puisque vous avez une valeur, John Plassard, qui gagne plus de 6%, avec des résultats au-dessus des attentes, et le marché n'y s'y attendait pas, parce que les trimestres records, c'est fini, hein, avec le Covid, et la fin du Covid, plutôt, ça se normalise.
Alors, il faut faire attention. Là, on parle des attentes. Hein. Mais si vous comparez par rapport à l'année passée, c'est nettement inférieur lorsque la demande pour les vaccins du Covid était plus importante. Une chose à noter qui est très intéressante, c'est que les ventes de Spikevax, le seul vaccin Covid qui est commercialisé par Moderna, ont chuté de 91% par rapport à l'année passée, mais à 167 millions de dollars, alors que les analystes attendaient 97 millions de dollars. Donc c'est moins pire que prévu, on dira. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que Moderna a fait part de son optimisme pour potentiellement la validation de son vaccin contre le virus respiratoire. Il devrait arriver potentiellement avant l'automne où cette maladie se déclare le plus. Donc de l'espoir aussi pour Moderna.
Merci beaucoup, John Plassard, en direct avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Étienne, qui nous accompagne aussi depuis la Tour Euronext tout au long de cet après-midi.